Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Mot à Mot Podcast. C'est le premier épisode d'une nouvelle série de podcasts que je commence. Et pour le premier podcast, je reçois Catherine Fournier, qui est députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup de venir sur le podcast.
Merci beaucoup à toi, Arnaud.
Donc, j'explique un petit peu le podcast, puisque c'est le premier épisode. Donc, à chaque semaine, j'ai un invité qui, à l'aide d'un dictionnaire, faut choisir un mot au hasard dans une page au hasard. Et il faut choisir un mot qui l'inspire et qui veut commencer à parler du sujet, puis on parle de mots comme ça, puis on défile sur plein de sujets. Donc, je te laisse l'honneur.
On va tester ça. Mon dictionnaire Larousse 1994. Est-ce que
t'étais
né en
1994? Pas encore. J'étais même pas en conception encore.
Oh là là, tu vas te prendre un coup de vieux. Eh bon, je suis dans une page de C.
Tu peux changer de page s'il n'y a pas de mot qui te vient, qui te tape à l'œil.
Il y a plein de mots intéressants. Il faut juste que je cherche quelque chose d'intéressant à dire en lien avec ça. Peut-être le mot, la page que j'avais pigée, le mot coéquipier, coéquipière.
OK.
Oui, ça me parle beaucoup parce que c'est sûr que, bon, moi, en étant députée, en faisant de la politique, il faut toujours qu'on se bâtisse, dans le fond, des équipes. Des équipes politiques, même moi, tu sais, comme députée indépendante, tu sais, j'entends souvent, ah, mon Dieu, t'es comme toute seule dans ton coin. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas de caucus de députés avec moi, donc d'autres. Membre de, disons, je suis pas dans un parti politique, tout ça, mais ça n'empêche pas que j'en ai une équipe autour de moi, tu sais, j'en ai des gens qui m'appuient dans mon action politique, qui travaillent avec moi d'abord, tu sais, dans le fond, chaque député, on a un bureau de circonscription, donc avec des gens, des employés qui nous appuient dans notre travail, qui offrent le service aux citoyens, tout ça, mais aussi, bon, j'ai des gens avec moi à l'Assemblée nationale qui m'aident à produire des projets de loi, à faire des interventions, tout ça, puis moi, la politique, c'est un sport d'équipe. Fait que moi, c'est sûr que je suis la personne qui prend la parole, tout ça, qui est peut-être en avant, mais...
Il y a une grosse machine derrière aussi,
c'est tout ça? Tout à fait. Tu sais, j'ai plein de monde, puis il y en a aussi des gens bénévolement, tu sais, qui m'appuient, qui m'aident dans mon action politique avec le mouvement qu'on a lancé aussi, Ambition Québec, qui va prendre son envol justement au cours de l'année 2020. Fait que tu sais, moi, même si je suis députée, je me vois pas comme... Tu sais, je me vois faire partie de l'équipe, puis on est tous ensemble dans des coéquipiers, puis on s'entraide dans
C'est quoi, là, comme tu étais députée en 2016 avec le Parti québécois, et après ça, tu es devenue indépendante en 2019, ça avait un an bientôt.
Ouais.
C'est quoi la grosse différence par rapport à... Tu sais, tu as une organisation politique derrière toi qui est vieille de bien, bien des années. Plus surtout, pas tout seul, mais tu pars un projet tout seul. C'est quoi les grosses différences entre avoir un parti derrière ton dos puis être un peu l'idée ton mouvement dans un sens?
Ben, c'est sûr que t'as plus, comme députée indépendante, j'ai plus de liberté d'action. C'est sûr que je choisis mes priorités, tout ça, je choisis mes combats, si on veut. Là. En même temps, la différence, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire par moi-même ou que, t'sais, avec mon équipe, mais en même temps, ça nous apprend justement à être plus autonome. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale que je connaissais pas quand j'étais dans un parti, parce que la machine, si on veut, il y avait plus d'employés, tout ça, donc ils faisaient un peu pour nous. Tandis que là, ben, ça me permet de mieux comprendre même les rouages de l'Assemblée, même si parfois il y a certaines choses qui prennent plus de temps. Mais je trouve que c'est quand même positif parce que je comprends plus le système qui est derrière de tout ça. Donc oui, il y a certains côtés plus négatifs, comme justement peut-être que ça prend plus de temps, mais en même temps c'est positif parce que ça permet d'avoir une plus grande le portrait global de l'affaire.
Je trouve ça, j'ai fait un peu de recherche par rapport à toi, puis comme même avant je connaissais, puis je trouve ça intéressant que tu sors beaucoup des moules de ce qu'on connaît des politiciens dans le sens, tu sais. T'étais la plus jeune élue députée à 24 ans, t'es sorti d'une grosse institution au Québec, puis j'ai vu aujourd'hui, comme en faisant un peu de recherche, que j'avais pas comme tu ça, mais que t'as dévoilé tes dépenses, je pense, au printemps dernier, un peu pour inciter les autres députés à mettre un peu la vérité en face. Puis je trouve ça fun que tu t'es pas peur d'un peu comme casser ces barrières-là. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Juste, tu sais, de commencer la politique à un jeune âge comme ça, est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours fait un peu passer les barrières?
Ben, c'est ça, moi je me qualifierais vraiment de fonceuse comme personne. Fait que pour moi, la politique, c'était pas un rêve lorsque j'étais jeune. Tu sais, c'est un peu venu au fil de mon parcours. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je pense que je suis capable, tu sais, puis je peux amener quelque chose de différent, justement. Fait que tu sais, j'ai comme pas eu peur de me dire, ben si j'ai envie de le faire, je vais tout mettre en œuvre pour être capable de le réaliser. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment mon, je pense, mon caractère, ma personnalité. Mais sinon, c'est ça, quand tu parles du fait d'avoir, par exemple, dévoilé mes dépenses, tout ça, c'est parce que. Bon, moi, la grande raison fondamentale pour laquelle je suis allée en politique, c'est la question de l'indépendance du Québec. Ça, c'est un projet collectif qui me motive énormément. Mais sinon, il y a plein d'autres enjeux qui m'intéressent aussi. Mais je veux dire, un autre truc assez fondamental dans mon engagement politique, c'est de restaurer la confiance entre la classe politique et les citoyens. Parce que bon, moi, je crois dans les projets collectifs, comme je viens de dire, et je pense que pour qu'il y ait des projets collectifs au niveau politique, la base, c'est que les gens retrouvent leur confiance envers la classe politique, ou du moins que ça soit amélioré. Puis je crois qu'un des grands facteurs par lesquels ça passe, cette amélioration de la confiance, c'est la transparence. Fait que c'est le fait de lever un peu le voile sur parfois ce qui nous semble loin. T'sais, les gens, ils pensent, par exemple, que parfois ils vont se questionner sur justement l'utilisation des deniers publics et tout ça. Puis je pense que c'est important, par exemple, dans ce sens-là, de dire, ben moi, j'administre un budget comme député, ben c'est la moindre des choses que les citoyens sont au courant de la façon dont je l'utilise. J'ai rien à cacher. On devrait pas justement.
C'est super, puis comme je trouve qu'il y a beaucoup, tellement de personnes sont un peu désolées par rapport à la politique, par rapport aux politiciens, puis je trouve ça plate parce que c'est pas quelque chose qui devrait être la politique, c'est quelque chose qui est supposé. Parce que pour moi, la façon de faire ça, c'est comme quelque chose qui est supposé soulever les foules, puis soulever les émotions, soulever les passions. Puis là, autant au fédéral qu'au provincial, c'est souvent comme ça, c'est qu'on vote pour la personne qui va moins comme déranger ce qu'on aime. Mais comme ça, je trouve ça le fun de des personnes qui sont. On en voit de plus en plus des jeunes, comme un peu comme toi, puis d'autres personnes un peu dans ton milieu qui foncent, puis qui n'ont pas peur d'assumer, puis de faire que oui, la politique, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de sérieux, mais que. Dans un sens, faut garder une passion, c'est ça qui soulève les personnes, c'est ça que comme ça qu'on avance comme province puis comme pays éventuellement peut-être.
Totalement, je pense que c'est ça qui doit être à la base, puis on doit redonner ces lettres de noblesse justement à la politique, parce que dans le fond, c'est une formidable façon de changer les choses. Mais je comprends en même temps, en contrepartie, les citoyens qui depuis plusieurs années ont perdu cette confiance-là, peut-être parce que les gens politiques n'ont pas été à la hauteur. De la confiance qui leur a été auparavant octroyée. Mais c'est à nous maintenant, on a la responsabilité sur nos épaules de reconstruire ça. Puis donc, je crois que justement, on doit avoir notamment cette passion, puis montrer encore qu'on est capable de faire quelque chose de grand avec cet outil qui est de la politique. Parce que si les gens aussi qui ne sont pas intéressés à changer les choses positivement ne s'engagent pas en politique, ben, on ne se ramasse pas nécessairement avec les personnes avec les intentions les meilleures dans le monde politique. Fait qu'on ne peut pas abandonner ce domaine-là, c'est trop important. Il faut que des gens bien puissent s'engager, des gens qui ont envie vraiment d'apporter vraiment quelque chose de bien, de positif à la société. Donc, en ce sens-là, c'est quelque chose de fondamental.
Tu parles de grands projets, puis tu en as justement bâti un, probablement avec ton livre que tu as sorti, Projet Ambition Québec. Un peu, c'est quoi? Ça vient d'un livre, mais c'est pour créer un mouvement, c'est ça?
Ouais, ben en fait, le livre que j'ai publié à l'automne de l'année dernière, l'automne 2019, le projet Ambition Québec s'est organisé pour l'indépendance, au final, c'est beaucoup l'assise de ma réflexion. Okay. Parce que lorsque j'ai décidé de devenir députée indépendante à l'Assemblée nationale, je me suis posé beaucoup de questions, tout ça. Tu sais, j'ai eu l'occasion quand même de m'exprimer sur plusieurs tribunes médiatiques, mais je sentais qu'il demeurait encore quand même certains questionnements peut-être plus en suspens. Ouais. J'avais pas nécessairement voulu rentrer dans les détails ou comme expliquer vraiment toutes les étapes de ma réflexion. Je me suis dit que le format écrit, c'était une super bonne façon de le faire. Ça permettait vraiment de m'exprimer sous une autre forme, puis avec plus d'espace, plus de temps également. Mais également, j'ai pris cette occasion-là, surtout pour me tourner vers l'avant. T'sais, je voulais pas juste recenser le passé. Et c'est vraiment une analyse, en fond, du mouvement souverainiste. Moi, on en est aujourd'hui en en 2020, en 2019, c'est quoi les constats, les pistes de solutions aussi à mettre en œuvre pour aller de l'avant. Puis, dans le fond, à la fin de mon livre, je parle de vraiment ce qui serait le projet Ambition Québec, qui est, oui, une organisation, une OBNL, qui est d'ailleurs déjà enregistrée officiellement.
Toi, tu l'as créé ou c'est...
En fait, c'est des collaborateurs. C'est de là... En ce moment, je ne suis même pas sur la liste des administrateurs. Non, vraiment. C'est des gens à qui j'ai confiance et avec qui j'avais discuté de ce projet-là. T'sais, je l'ai dit aussi dans mon livre, c'est moi qui est l'auteur. Mais en même temps, c'est une réflexion collective parce que j'ai rencontré tellement de monde dans les derniers mois qui ont nourri tout ça. Fait que le projet, il ne vient pas juste de moi. Ouais, c'est une œuvre collective, justement, comme je le disais. Puis donc, l'OBNL, elle est enregistrée. On souhaite lancer les activités au début de l'année 2020, c'est sûr que l'objectif, au final, c'est de contribuer à élargir la coalition souverainiste et à remettre cet enjeu-là au cœur de l'actualité. Surtout, je dirais, c'est sûr que notre public cible, c'est les 41, 42 ans et moins, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voter, dans le fond, au référendum en 1995. Donc, d'intéresser cette génération dont nous faisons les deux partie. Qui n'a pas nécessairement, tu sais, moi, j'ai pas entendu parler de cet enjeu-là avant d'arriver, genre, au cégep. Fait que, je me dis, on est capable de, comme, réintéresser, justement, les jeunes à essayer de construire un projet qui nous parle, qui répond aux aspirations de notre génération pour que, après, ben, avec les générations qui nous ont précédées, qui sont en ce moment plutôt démobilisées, parce que je dirais, le cynisme politique, oui, affecte notre génération, mais je dirais encore plus les générations précédentes qui ont connu vraiment beaucoup de déceptions.
Les époques de gloire. Puis justement, tu parles un peu qu'il faut un peu rattraper les jeunes dans ce mouvement-là. Puis je parle comme, moi je suis indépendantiste depuis, depuis que je suis tout jeune. C'est comme, c'est quelque chose qui est dans ma culture, dans ma famille, c'est quelque chose qui est valorisé. Puis je suis un peu né dans ça, fait que je veux pas, comme c'est quelque chose qui est dans mon cœur vraiment très profond. Puis je vois, comme on parle souvent dans les médias, puis dans le public, que l'indépendance chez les jeunes, c'est moins quelque chose qui est populaire, mais en parlant à beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes de mon âge, je réalise que c'est pas la grande cause qui est en jeu, mais qui a quand même un intérêt, puis c'est pas une fermeture au complet. Fait que est-ce que c'est un peu... Est-ce que tu t'espères agripper ces gens-là qui sont un peu indécis, mais qui voient un avenir dans un état?
Ouais, mais c'est drôle, moi j'ai la même conception que toi, tu sais, j'ai l'impression, en tout cas comme moi aussi, là, tu sais, j'ai fait beaucoup de tournées dans les cégeps, les universités, il n'y a pas de fermeture à cet enjeu-là, bien au contraire, tu sais, c'est un peu décourageant aussi d'entendre toujours dans les médias, tu sais, ça, je pense que ça contribue justement à l'apathie un peu de beaucoup de gens plus âgés, dans le sens quand tu entends tout le temps dans les médias que les jeunes ci sont pas intéressés, puis sont plus, tu sais, je pense que c'est sûr que ça a une influence, mais moi je sens une réceptivité. Je pense pas que les gens sont convaincus. C'est normal qu'ils soient pas convaincus. Je veux dire, ça a pas été au cœur du débat public. Soit en passant, c'était la même chose des jeunes des années 80. T'sais, entre les deux référendums, entre 80 et 95, on avait complètement arrêté d'en parler au Québec. Tu sais que même, par exemple, l'EG Marketing avait arrêté de faire des sondages sur l'idée de l'indépendance tellement que c'était même plus dans l'actualité, puis les jeunes, ils disaient la même affaire à peu près, là. Les jeunes sont plus pis ci, pis ça. Puis au final, quand il y a eu un référendum en 93, qui a voté le plus fortement pour le oui? Ben, c'est la génération plus jeune. Donc, moi je me dis, regarde, on peut pas savoir avant que ça soit qu'il y ait un débat dans la société de quel côté va pencher une génération. Bon, le temps nous montre que généralement, les jeunes sont plus favorables au projet. Mais maintenant, c'est à nous, tu sais, de mobiliser ça, puis de créer une effervescence. Puis c'est justement ça à quoi on veut contribuer avec Ambition Québec, c'est d'aller susciter des initiatives au sein de la société civile, au sein des jeunes, qui soient à l'école ou dans le milieu professionnel, des gens qui se réapproprient la politique de façon différente, de façon non partisane, axée sur des projets collectifs. Oui, en rapport avec l'indépendance, mais généralement avec la mobilisation de la jeunesse, avec l'idée du sentiment d'appartenance envers le Québec, puis de lier aussi aux grands enjeux d'aujourd'hui, que ce soit l'environnement, que ce soit le vivre ensemble, les inégalités sociales, peu importe c'est quoi la sensibilité qu'on peut avoir ou l'enjeu qui nous importe, il y a toujours un lien à faire, puis je pense que c'est de cette façon-là. Je pense pas qu'il y a une seule façon de parler à tous les Québécois, tout le monde, on a nos propres sensibilités, mais c'est de dire, est-ce que ça peut pas se générer justement plus dans une approche de la base vers le haut, plutôt que ce soit constamment les partis politiques qui aient en main cet enjeu-là et qui essaient de dicter ou d'imposer un projet à la population. Donc c'est vraiment d'inverser l'échelle de pouvoir.
Tu sais, t'as commencé en politique assez jeune. Qu'est-ce qui t'a mené à avoir une carrière professionnelle en politique? Comment t'as commencé ça?
Hey, très bonne question. Je te dirais que c'est le hasard, en fait. Oui, parce que, comme je disais tantôt, moi, j'ai jamais prévu faire de la politique dans ma vie. Moi, je viens pas d'une famille, justement, où la politique était présente. Vraiment, vraiment pas. Et en fait, comme je me suis intéressée à ça quand je suis arrivée au cégep, parce que j'étais en sciences humaines, au Vieux-Montréal, puis il y avait quand même une certaine effervescence et d'engagement social, tout ça. Puis il y avait un comité, il y avait un comité souverainiste. Moi, j'étais curieuse, tu sais, j'étais allée voir ça, puis tu sais, le crime, ça m'avait trotté dans la tête, puis j'étais allée faire un échange étudiant au Texas pendant 6 mois, qui m'avait comme vraiment fait prendre conscience de mon identité québécoise, puis là, je suis revenue, puis ça me tentait de m'impliquer. J'étais allée à quelques événements politiques, de fil en aiguille, on m'a demandé d'être bénévole, tu sais, de prendre certaines responsabilités, puis j'ai vraiment comme eu la piqûre de l'implication que je m'étais jamais vraiment... Tu sais, j'avais fait beaucoup de bénévolat dans ma vie, mais pas au niveau politique. Puis là, je trouvais ça le fun, d'avoir un idéal à défendre, puis de, c'est une cause commune avec un grand nombre de gens. En tout cas, je trouvais ça très porteur, puis j'ai senti que je pouvais faire la différence. Fait que de plus en plus, j'ai commencé à prendre des postes comme ça de bénévole, d'implication militante. Je suis devenue quasiment une militante bénévole à temps plein, là. À un moment donné, j'étais présidente quand j'étais à l'université du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. J'organisais des semaines de conférences, tout ça, avec une équipe, tu sais, qui venait de des gens de tous les partis aussi, ou qui, des gens qui s'affiliaient à aucun parti. Tu sais, je pense que mon désir d'action non partisane, ça part là de beaucoup aussi. Tu sais, moi, l'idée de rassemblement, tu sais, le fait de travailler ensemble, moi, j'y crois. Je l'ai déjà vécu à l'université. Je pense que c'est. J'espère que c'est reproductible. En fait, j'ose de croire dans la politique comme plus institutionnelle. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, en m'impliquant justement. Que ce soit au blog, après je me suis impliquée aussi au Parti québécois, toujours dans la volonté quand même de, tu sais, je me suis jamais comme décrite de façon genre, tu sais, je me suis toujours décrite comme souverainiste avant péquiste, péquiste, tout ça. Pour moi, le véhicule, tu sais, c'est important, mais en même temps, c'est vraiment la cause qui m'importe, puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi de devenir indépendante, parce que je sentais plus que la cause pouvait avancer autant au niveau du véhicule du Parti québécois, mais toujours est-il que j'ai quand même cru, au départ, j'ai toujours voulu faire le maximum pour essayer de changer les choses. Et je me suis dit, si je veux par exemple que les choses changent au PQ, ben je vais me présenter. Je vais me présenter comme députée. Puis en plus, j'avais le goût de faire la différence au niveau local dans ma communauté. Fait que j'ai décidé de foncer. Puis de, j'ai commencé à faire. Dans le fond, j'ai fait une investiture parce qu'au départ, il y avait plusieurs personnes qui voulaient être candidates du Parti québécois dans ma Marie-Victorin, dans ma circonscription. Fait qu'une investiture, ça, c'est comme une élection, mais juste entre les membres du parti. OK, fait que c'est pas genre la population générale. Fait que c'est comme une pré-élection. Là, on était 6 candidats, puis c'est moi qui ai gagné, dans le fond, la majorité des appuis, dans le fond, des membres du comté. Fait qu'après, ça m'a comme donné le droit de me présenter sous la bannière du PQ aux élections. Puis j'ai remporté, c'est ça, en 2016. Puis, tu sais, même quand j'étais au parti, tu sais, je me suis impliquée dans toutes sortes de comités. J'étais même membre du conseil d'administration du parti. Pour vraiment essayer de voir au maximum ce que j'étais capable de faire, puis ce qu'on pouvait changer. Puis c'est un peu par constat de dire que c'était comme tellement lourd et difficile à changer à l'intérieur que je me suis dit, ben, faut peut-être brasser les choses à l'extérieur, puis que ça va avoir une meilleure influence après sur le mouvement général. Donc, j'essaie les choses, et je pense que c'est notre responsabilité en tant que souverainiste. Et c'est facile d'être dans le statu quo, puis comme. De juste comme se laisser entraîner, de dire ben oui, ça va mal, tout ça, mais moi j'ai comme le goût de prendre le bâton du pèlerin, puis je sais qu'il y a plein de monde qui y croient, puis qui ont le goût de faire bouger les choses, puis avec ces gens-là, je veux qu'on réussisse à ressusciter une appropriation citoyenne du projet d'indépendance. D'où le point de Québec.
Mais c'est genre, tu parles de un peu prendre le mouvement vers le bas, puis de monter, quelque chose qui est comme commencé par les politiciens, puis autant pour les jeunes comme nous, que pour les plus âgés, comment tu peux. Parce que souvent, il y a une forme de cynisme un peu quand on voit la situation, que ce soit environnementale, que ce soit par rapport à l'indépendance, par rapport à des situations, puis on voit un peu le monde comme étant moins rose qu'il l'est en vérité, même s'il y a quand même des choses un peu mauvaises. Mais. Comment tu dirais, c'est. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, ces gens-là qui voient. Qui veulent faire un changement, mais qui voient un peu le défi trop grand dans le sens?
Je dirais que la meilleure façon d'avoir une influence, c'est souvent par l'exemple. Donc, si C'est sûr qu'à une personne, on ne peut pas nécessairement changer tout. Il faut le réaliser. Je veux dire, y a des choses qui nous dépassent. Par contre, si chaque personne donne le meilleur d'elle-même, alors quelque chose, tu sais, qui l'importe ou qui la touche vraiment personnellement, je suis convaincue que tous ensemble, tu sais, par l'exemple, on influence d'autres gens à s'engager. Puis, tu sais, moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans mon travail et que j'essaie au maximum de faire. Tu sais, c'est de dire, de transmettre ce goût-là de l'engagement, non seulement politique, mais social en général. T'sais, en 2017, moi, j'avais publié un autre livre, dont le titre est L'audace d'agir, vraiment pour stimuler ce goût-là d'implication. Donc, tu sais, de réaliser la portée de nos actions, oui, mais de se dire, mais plus on est nombreux, je pense que c'est quelque chose qui devient comme contagieux, si on veut, de façon
La force du
positive.
groupe, c'est quelque chose
Oui,
de...
exact, la force du groupe. C'est ça qui est intéressant. Si tu dis, ben, on va générer des initiatives, ben, plus il y en a, mais plus ça donne le goût à d'autres d'embarquer. C'est un peu comme ça dont partent les mouvements citoyens, parce que c'est comme l'effet domino.
Est-ce que dans l'avenir rapproché ou un peu plus lointain, la création d'un parti t'intéresserait? Ou tu t'aimerais rester indépendante ou peut-être rejoindre un autre parti existant en ce moment?
Pour vrai, j'en suis vraiment pas là. Puis,
OK.
tu sais, je suis vraiment pas dans la création d'un parti. Je
Ouais,
pense que ce
ouais.
serait pas. Je pense qu'en ce moment, avec la situation, mettons, le
Ouais.
Parti québécois, Québec solidaire aussi, qui est un parti officiellement souverainiste, il y a beaucoup de souverainistes qui sont à la CAQ, tout ça. Est-ce que ça prend un nouveau parti politique? Je le pense pas. Par contre, ce que je crois, puis l'idée que je développe dans mon livre aussi, c'est que je crois qu'il devrait y avoir une espèce de coalition électorale qui se crée éventuellement lorsque les conditions seront réunies, parce qu'en ce moment
On a fait des tests
j'ai pas
staff, là.
l'impression que ça fonctionnerait, parce qu'il y a trop comme de hargne au sein du mouvement, malheureusement. Mais souvent, c'est quand ça va pas bien, il y a plus d'agressivité, tout ça, malheureusement, qui peuvent se créer entre des gens qui partagent une idée mais pas nécessairement les mêmes moyens d'action. Fait que, t'sais, moi, je pense qu'en régénérant quelque chose au niveau citoyen, ça peut participer à amener un meilleur climat au sein du mouvement, puis une meilleure cohésion aussi. Puis à ce moment-là, ben, si on réfléchit par exemple à créer une espèce de coalition électorale où des représentants de chaque parti ou de chaque même groupe, ou même des gens plus indépendants qui représentent d'autres courants idéologiques de la société pourraient se joindre dans le but d'être élus et de réaliser l'indépendance par la suite. Moi, c'est plus de cette façon-là que je le conçois. Je crois pas non plus à la convergence juste PQ et QS ensemble pour qu'ils s'entendent. Je pense que ça va vraiment prendre une structure comme qui se pose au-dessus des partis politiques, à la limite qui pourrait être gérée par les Oui Québec, qui sont comme les organisations unies pour l'indépendance. Puis dans cette coalition-là, donc il pourrait y avoir autant justement des représentants des deux partis, mais des gens un peu plus de droite, par exemple, tu sais, des gens, par exemple, qui s'identifiaient auparavant à la CAQ, ou qui sont plus indépendants d'esprit. C'est vraiment pour avoir une belle mixité, puis que le projet aussi soit pas tagué, si on veut, avec la marque d'un parti politique. Parce que le problème, c'est avec l'indépendance, qui est un projet tellement large, si on l'associe avec des politiques publiques dans le gouvernement, mettons du Parti québécois, du Québec solidaire, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne partagent pas nécessairement toute l'idéologie, mais qui sont quand même d'accord avec le principe d'indépendance, vont peut-être moins adhérer.
Mais ça se voit à vous faire politique depuis une couple d'années. Puis je pense que la politique, c'est quelque chose que beaucoup de gens, on voit un peu, c'est un peu des personnages publics dans un sens, mais on ne connaît pas beaucoup sur votre horaire de travail, dans le sens. Fait que c'est quoi ta semaine typique de député à l'Assemblée
C'est
nationale?
vrai, c'est une super bonne question. Ben, dans le fond, l'Assemblée nationale, t'sais, avec les périodes de questions et tout ça, ça siège environ 8 mois par année. En fait, on siège, je ne sais pas pourquoi ce mot-là existe spécialement, on a comme des sièges, au salon bleu, fait que ça doit être pour ça qu'on utilise ce mot-là. Mais dans le fond, c'est à peu près de la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre, puis après ça, on recommence début février jusqu'à mi-juin. Ça ressemble un peu à l'école, si on veut. Puis dans le fond, l'Assemblée nationale à Québec, ces semaines-là dont je parle, c'est 3 jours par semaine, donc les mardis, mercredis, jeudis. Et les lundis et les vendredis, on est généralement dans nos circonscriptions, là, parce qu'on a des bureaux qui sont ouverts du lundi au vendredi aussi généralement, mais bon, le mardi, mercredi, jeudi, on a des gens qui nous représentent, qui sont là pour prendre le relais. Mais tu sais, même le lundi puis le vendredi, tu sais, moi, c'est bien rare que je vais être à mon bureau toute la journée, parce que justement, on a plein de choses comme là. Aujourd'hui, je suis ici, participer au podcast, après ça, j'ai des rencontres, j'ai des visites, tout ça, dans les organismes et tout. Donc, c'est comme très variable comme journée dans nos circonscriptions. À l'Assemblée nationale, c'est un peu plus genre répétitif parce qu'on sait que, mettons, tous les mardis à 2h, c'est la période des questions.
OK.
Ou tous les mercredis puis jeudis, c'est à 10h. C'est la période des questions. Ça, c'est 45 minutes par jour. Alors qu'on voit ça beaucoup à la télé, mais tu sais, c'est pas juste même au contraire, c'est tellement une petite portion de notre travail. Sinon, autrement, quand on est à l'Assemblée nationale, ben, il y a souvent des commissions parlementaires. Mm-hmm. Ça, dans le fond, pour résumer ça, c'est comme des séances de travail. Tout le monde est assis genre autour d'une table, puis qu'on regarde les lois que le gouvernement propose. Puis on passe, dans le fond, chaque ligne de la loi pour l'analyser, puis suggérer les modifications au gouvernement, débattre sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment un travail très minutieux qui est fait. On veut s'assurer, dans le fond, qu'il n'y ait pas de faille dans la loi.
Ouais.
Donc, c'est sûr que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va essayer de le faire changer. Bon, des fois, ça marche pas vraiment, parce que le gouvernement, quand il est majoritaire, il a quand même le contrôle sur le contenu. Mais bref, c'est tout ce travail-là, c'est assez long, c'est assez minutieux. C'est important le travail qu'on fait, parce qu'après, les lois vont être interprétées dans les tribunaux par les avocats, par les juges. Donc, ça a une répercussion directe sur la vie des gens, dans la réglementation, tout ça aussi. Donc, c'est un travail qui est trop sérieux, qui prend beaucoup de temps, généralement. Donc, on passe du temps là-dessus. Mais sinon, aussi, même des fois, à l'Assemblée nationale, il y a des groupes qui viennent nous rencontrer. Donc, on va assister à toutes sortes d'événements comme ça. Donc, c'est des semaines c'est plus routinier que nos journées en circonscription. Puis, il faut savoir que les députés. J'ai dit que le lundi et le vendredi, on a notre bureau, mais le samedi et le dimanche, même si on n'a pas notre bureau qui est ouvert, on travaille souvent quand même parce qu'on est aussi invité dans toutes sortes d'événements, que ce soit à participer à des colloques, à des conférences, mais beaucoup dans nos circonscriptions aussi. À chaque fois qu'un organisme communautaire fait une activité bénéfice, par exemple, organise un spectacle ou une activité dans la ville de façon générale, ben on est invité officiellement, puis c'est important de participer. Dans la mesure du possible, parce que ça nous permet de rencontrer les gens de notre circonscription, ça leur permet d'avoir accès à nous, de nous interpeller sur certaines choses qui se passent aussi dans l'actualité, de connaître notre position, donc de vraiment être là, ou encore mieux, de comprendre la réalité des gens, justement, celles qui vivent sur le terrain. Moi, par exemple, je me fais un point d'honneur de faire du bénévolat dans les organismes de ma circonscription, de temps en temps, juste pour justement être une bénévole parmi les bénévoles, puis voir c'est quoi la réalité de l'organisme, connaître les gens qui s'investissent aussi dans le milieu, dans ma circonscription, qui sont là pour aider, pour faire en sorte d'améliorer notre cohésion sociale. Donc c'est toutes des choses que j'adore faire, pousser des dossiers aussi au niveau local avec les gens de mon équipe. Justement, on a certaines priorités, moi je travaille beaucoup au niveau des écoles. Stimuler ce sentiment d'appartenance, lutter contre le décrochage scolaire, justement, ça fait partie beaucoup de mes objectifs, avec toutes sortes de moyens, puis bon, d'être en contact avec toutes les équipes et tout. Je te remercie vraiment de l'invitation, puis tous ceux et celles, dans le fond, qui veulent s'informer du projet Ambition Québec, on a un site web, c'est ambition.québec, on a également une page Facebook, Instagram, tout ça. Puis, dans le fond, aussi, si les gens ont des questions sur la politique, parce que moi, je me donne ça un peu comme objectif aussi, de démystifier tout le travail des élus. Tantôt, quand je parlais de rapprochement entre les citoyens et la classe politique, n'hésitez jamais. Moi, je gère moi-même tous mes réseaux sociaux, donc les gens peuvent m'écrire sur Facebook, Instagram, puis ça me fait plaisir de répondre à vos interrogations sur la politique.
OK, super. Ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre podcast, mot à mot, avec un nouvel invité. Donc, salut, puis à la semaine prochaine.